bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour passer en revue l'actualité des séries. Vous le savez, chaque semaine, 26 minutes en face à face avec une personnalité qui fait les séries. Auteur, producteur, scénariste, réalisateur, acteur ou actrice, ils sont avec nous. Compositeurs, compositrices aussi. Et cette fois-ci, on va parler d'une mini-série très attendue qui débarque aujourd'hui même sur Prime Video et bientôt diffusée sur TF1, Intraçable. Voici la bande-annonce.
Ça fait 7 ans. Faut que t'avances, Julia. Tu peux pas rester comme ça.
Maman !
Putain, tu peux pas me kidnapper comme ça et rien me dire, là.
Pas kidnapper, arrête.
Ah, si, si.
Quelqu'un nous veut du mal. Il a hacké mon ordinateur, mon téléphone, ma voiture. Je sais pas qui c'est. On doit rester invisible.
Julia Conforti, 40 ans, mère célibataire. En apparence, c'est madame tout le monde.
Te voilà.
En réalité, c'est une femme déterminée, potentiellement dangereuse. Si je suis là, c'est juste pour vous aider.
Vous voulez vraiment m'aider? Rouvrez l'enquête sur la mort de David Becker.
Quelle enquête? C'est un accident?
Non.
Maman ! Maman, putain !
Vous comprenez même pas que vous êtes manipulée.
Ça s'appelle donc Intraçable, mini-série pour Prime Video et donc TF1. Je suis ravi d'accueillir son héroïne de Intraçable, celle que l'on retrouve avec toujours le même plaisir dans ce rôle de femme d'action. Bonsoir, Sophia Essaïdi.
Bonsoir,
comment
Alexandre.
Ça va
bien.
Je disais, film d'action pur et dur, ce que les Américains appellent les blockbusters, nous on le fait aussi en mini-série maintenant et tu en es l'héroïne.
Oui, mais je suis contente parce que c'est aussi un drame familial. C'est un thriller psychologique, mais il y a aussi tout un côté très psychologique que je trouvais très intéressant dans cette série.
Alors, ton personnage est marié avec un homme avec qui ça se passe plutôt pas mal.
Même très très bien.
Même très très bien, un mur fusionnel qu'on voit ici, très beau couple. Et puis, advient un drame. Il périt dans une explosion lors d'un mariage, je crois, il me semble bien. Mmh. Et puis, quelques années plus tard, elle a la conviction, par des événements qui vont se passer, on essaie de ne pas trop en dire, que finalement, il ne serait peut-être pas mort.
Et mais que ce n'est pas un accident.
Ah, que ce n'est pas un accident, c'est ça. Ouais. J'en suis complètement perdu avec cette histoire. Non, parce qu'on ne sait jamais. Moi, à mon avis, ce n'est pas un accident.
Voilà,
et la preuve, c'est que des gens se sont lancés à sa poursuite, elle et son fils, et qu'elle essaye de se rendre invisible dans une société où on est surveillé de partout.
Exactement.
Et c'est là que la traque commence.
C'est exactement ça.
Voilà. Bon, j'ai failli juste sur le petit début, mais...
On était presque parfait.
On était presque bien, presque bien. On va la refaire. On voit à chaque fois, on revient à chaque fois sur ton parcours et sur ces rôles que tu as faits, mais il y a une volonté vraiment de choisir des projets qui sont toujours à la fois singuliers et différents. Mmh. Là, c'est quelque chose dans lequel on n'avait pas l'habitude de te voir... faire. Donc c'est intéressant, je trouve.
Oui, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de le faire. Déjà parce que je trouve que c'était vraiment un projet de qualité dès le début. Moi, en lisant les 6 scénarios, j'étais vraiment une lectrice un bouquin qui ne veut pas... aller au bout parce qu'on ne veut pas que ça se termine. Donc je me suis dit déjà, si en lisant je ressens ça, en le faisant, ça va être génial. Et puis, en fait, j'avoue que dans ce projet, il y avait tout. Il y avait la qualité au départ, il y avait le rôle, qui est quand même un cadeau pour une actrice, un rôle complexe, un rôle sur plusieurs temporalités, donc plusieurs facettes, plusieurs périodes d'une même vie. Donc on ne fait qu'évoluer dans la vie. Donc là on est sur je ne sais plus combien d'années, mais c'est quand même assez long. Le réalisateur et le chef opérateur sont deux génies, Martin Laugerie et Louis Farge, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Je me retrouve avec deux productions extraordinaires, AK, une production suisse, et Thomas Seigne, Empreinte Digitale, que j'aime beaucoup. Il y avait vraiment tout.
Il y avait tout.
J'avais vraiment très très envie. Puis le casting aussi
voilà. Pas dégueu.
Hein, pas dégueu, on est d'accord. Irène Jacob, quand même, Alexis Michalik, Arkady Radev, entre autres. Hein, mais
Irène Jacob le qui craque, enfin voilà.
C'était extraordinaire. J'ai vraiment. Pourtant, tu sais à quel point je suis exigeante.
Ah, exigeante
à quel
tu fais
point
attention.
Je dis ouais. En général beaucoup non. Pas forcément à cause de la qualité, c'est juste parce que d'un coup, ça connecte pas. Là, ça a connecté partout. Et j'ai dit oui tout de suite.
Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Je sais pourquoi j'ai bafouillé sur le pitch. C'est que la série a été présentée l'année dernière à Série Mania.
Oui, c'est vrai. Alors, quand même,
et,
on a
non,
ça.
Non, mais et je me souviens que j'avais envoyé un message à Sophia. J'ai dit, il y a un truc qui est louche avec Alexis. Je suis sûr qu'en fait, on va découvrir qu'il est peut-être vivant. Donc, je pense qu'en fait, j'ai fini par me convaincre
non,
que c'était vraiment arrivé.
On est entre l'accident et le meurtre. Et quoi. Le meurtre. C'est vraiment ça, l'histoire. C'est qu'on commence, c'est un accident et elle... On va essayer de pas non plus tout spoiler, mais il y a des choses qui vont se passer où d'un coup ça va tout remettre en question et elle a cette conviction qu'il a été tué et elle veut que la police évidemment réouvre l'enquête.
Ce qui est dingue, c'est que c'est évidemment une série qui est très contemporaine parce que on parle de surveillance de masse, on parle de téléphone, de tout ça, et en même temps il y a un côté très années 90 dans la façon dont c'est traité. On a l'impression de voir les blockbusters à l'ancienne, c'est-à-dire, et c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment dans le sens où on fait abstraction des effets des gros effets spéciaux et des gros trucs pour arriver à de l'action pure, ouais. À du suspense pur. Et moi, je t'en avais dit, mais j'avais fait penser à Traque sur Internet,
oui,
le film avec
dit,
Sandra
ça.
Bullock. Et j'ai dit, mais en fait, Sophia, c'est notre Sandra Bullock aujourd'hui, quoi.
Bah, merci. Je prends ça comme un très, 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 très grand compliment.
Tu peux, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est exactement ça. Sandra Bullock, elle a cette capacité aussi à se retirer tous les artifices qu'on peut avoir quand on est comédienne avec le maquillage et tout ça, et à arriver à quelque chose de plus pur, quoi.
Oui, ben, c'est aussi ce besoin d'absolue sincérité, qu'on soit dans un film d'auteur ou dans un film d'action. C'est on raconte des histoires d'êtres humains, quoi. Même s'il y a de l'action, même s'il y a des choses qui se passent, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne qui vit toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui est toujours au centre, c'est l'humain.
Et alors, terrible, tu joues une mère d'un enfant de 20 ans, presque.
17 ans, 17
là,
ans, s'il te
dis,
plaît.
Oh mon Dieu, mais non, Sophia, pas déjà.
Je pourrais avoir un enfant de 17
bah oui,
ans.
C'est
hein,
vrai,
je... Bon, le mien est beaucoup plus petit, mais je pourrais avoir un enfant de 17 ans.
Hein. Avec évidemment ce côté-là à jouer, qui est très particulier, de voir ressouder cette famille entre vous. Parce qu'il y a quelque chose qui a été quand même abîmé par la disparition de ce papa.
Alors, c'est plus qu'abîmé. Moi, on commence cette série avec une femme détruite. Ça m'a beaucoup touchée. C'est une femme qui est absolument détruite par l'impossibilité de faire son deuil, l'impossibilité de faire le deuil de la vie qu'elle avait imaginée. De l'amour, bien sûr, de son mari, mais cette vie-là. Et ce qui fait qu'elle est en survie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant d'aller raconter ça, cette fille qui n'arrive pas à vivre. Si elle n'arrive pas à vivre, elle n'arrive évidemment pas à connecter avec son fils, elle n'arrive pas à être là pour lui. Donc en plus, elle a cette culpabilité de ne pas réussir. Elle est dans un cercle vicieux terrible. Et ce qui fait que ça la rend hyper vulnérable. Alors elle, oui, c'est une dureté qui ressort de tout ça. C'est une prison, même dans son corps. Moi, je travaillais la prison du corps, je travaillais le manque de vie partout, quoi. Il fallait qu'on la sente morte, elle était morte de partout. C'est une sorte de petit de robot qui avance.
Là, on voit
d'un endroit à un
vide.
Autre. Et oui, c'est vraiment une mort intérieure, quoi. Et évidemment, ce qui m'intéresse, tu le sais très bien, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. À un moment donné, d'un coup, on n'a plus le choix, parce qu'elle n'a plus le choix, elle doit sauver son fils de cette histoire. Et comment tu vas chercher à l'intérieur des ressources que tu ne pensais même pas avoir? Elle, pour elle, la vie est finie. Et là, d'un coup, elle se rend compte que pour l'amour de son fils, pour sauver son fils, elle est prête à tout. Et elle va reconnecter à la vie dans ce moment dramatique et va commencer un chemin vers elle d'abord, vers sa réparation et évidemment après vers son fils.
Est-ce que tu t'es surprise dans cette série, notamment sur toutes ces parties action, parce que les femmes à la télévision française et au cinéma français ont peu l'occasion de s'exprimer dans de l'action.
Non mais je vais te dire un truc, je te donne une petite histoire quand même. Il y a un truc dont je suis extrêmement fière, qu'on verra pas beaucoup, mais moi j'aime bien aussi me donner des défis et à un moment donné il y a une scène d'action en voiture, une course poursuite qui devait donc être faite par un professionnel. Et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? Et il y a une partie de la course-poursuite que je fais réellement. Et J'ai un peu bluffé, j'ai dit bah, oui, en plus je ne conduis pas forcément très très bien. Et bah écoute, tu vois, des moments comme ça, ça fait du bien de se surprendre soi-même. J'ai réussi à le faire et j'étais hyper fière. Je me suis dit, bah dis donc,
je suis capable de faire des... Et les bastons, les sauts, les courses, tout ça, parce qu'elle elle vit tout, cette femme. C'est-à-dire qu'elle elle est sans arrêt, évidemment, en train d'obliger de fuir.
Ouais.
De fuir de tout et de tout le monde. Donc même de gens qu'elle connaît, ah même bah là, des gens dont elle a confiance.
Elle a plus confiance en rien, ni en personne. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle compte que sur elle-même. Et sur son fils. Et ça, mais ça aussi, elle ne le comprend pas tout de suite.
Non,
même ça, il y a ce chemin où ils sont tous les deux dans ça. Et puis, on commence par une mère réellement qui infantilise son enfant. C'est elle qui gère tout parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas compter sur lui. C'est encore un petit bébé pour lui. Et puis, d'un coup...
Bah ouais, elle reste sur cette image-là.
C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui gardent cette image-là très, très longtemps. Et là, c'est très beau, même moi, de le vivre, puisque je suis une jeune maman, de voir comment, d'un coup, on change de regard sur son enfant. Comment d'un coup ce petit bébé, on se dit mais non, en fait c'est déjà un homme.
Il grandit quoi.
Et je peux compter sur lui. Et ça, je pense que c'est très dur ce passage de se dire mais en fait.
C'est pas que à lui de compter sur moi, c'est aussi à
moi
de lâcher prise.
Moi aussi je peux compter sur lui. Et mais c'est un grand travail, c'est un grand travail de lâcher prise, de passer d'un regard à l'autre. Et elle le fait dans le film. Et ça m'a beaucoup touchée.
T'as mentionné tout à l'heure l'équipe d'empreintes digitales, qui est une équipe évidemment que nous on suit beaucoup parce qu'on adore ce qu'ils font. Ils vont là où les autres en général ne vont pas.
Ils prennent des risques.
Ils prennent des risques et ils aiment bien balancer les femmes dans des registres d'action, parce que c'est à eux qu'on doit Fury
tout à fait.
Sur Netflix. Et ça va très très bien Alina dans ces rôles-là. Mais c'est bien de... Que ça bouge enfin, parce que sinon vous allez rester alors au mieux polar, parce que ça, il y a de la place pour être femme policière à la télévision, mais d'être un peu dans des rôles...
J'ai l'impression que ça bouge là quand même. J'ai l'impression que ça avance un peu de ce côté-là, et c'est super, parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais j'ai l'impression que ça avance.
Et ça marche terriblement bien. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un vrai page-turner, cette série. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, il y a un cliffhanger à la fin qui te renvoie. Il y a une grosse tension.
Il y a une tension qui est toujours là. Et ça, c'est vraiment le merveilleux travail du réalisateur et de Martin. C'est vraiment de nous tenir en haleine tout au long de la série. Même moi, en la voyant, ce qui est quand même très difficile parce que c'est pas facile de se regarder à l'écran quand on est acteur, mais j'ai réussi à dépasser le truc parce que j'ai été prise, alors que je connaissais très bien la fin, mais j'ai été prise dans ce rythme qu'ils ont réussi à installer qui te chope à la fin, au début, et qui te dépose à la fin de la série.
Qui te dépose dans quel état?
Ça je sais pas.
Vous le verrez. Peut-être que d'ailleurs vous allez vous dire finalement l'animateur il avait pas tort. Je le dis avec d'autant plus de facilité que je n'ai pas encore vu la fin. J'avance, je ne l'ai pas encore vu. Sinon, je ne me permettrai pas de jouer avec ces nerfs-là. Intraçable, ce sera bientôt sur TF1. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une série va être à la fois diffusée sur une plateforme où on peut tout tenter, et des chaînes comme TF1 où on est un petit peu évidemment contenu par ce support-là.
Mais je suis ravie,
c'est
que
vraiment
TF1,
génial que TF1 se lance là-dedans.
Ouais, moi j'étais vraiment très contente qu'ils se lancent dans ce projet-là, qui est un peu différent, qui est un peu plus sombre, ne serait-ce que dans l'image, dans les propositions du réalisateur. Et je suis très touchée et ravie qu'ils aient suivi.
Tu l'as dit tout à l'heure, tu fais attention à ce que tu choisis dans tes projets. Tu ne vas pas n'importe où, tu ne vas pas essayer de tout tourner. Est-ce que c'est parfois un peu handicapant de se dire « je refuse » et puis je dis non une fois, et puis je dis non deux fois, et de prendre le risque de se dire « oh, ils vont en avoir marre que Sophia et Saïdi, elles disent non ». Enfin voilà, est-ce que c'est calculé ?
C'est penser,
c'est
plus
penser
que calculer,
parce que
finalement c'est toujours l'instinct qui me fait prendre des décisions. Donc est-ce que tu calcules quand tu suis ton instinct? Je sais pas. En tout cas, c'est penser. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'être à fond quand je fais un projet. Je peux pas y aller à demi-mesure, je peux pas y aller pour des mauvaises raisons. Si j'y vais, c'est parce que d'un coup, c'est une évidence. Voilà. Et j'ai besoin de cette évidence pour y aller. Et des fois, elle s'explique pas réellement. C'est parce que d'un coup, il y a une connexion qui se fait avec le personnage, parce que je sais que d'un coup, je vais aller, moi, pouvoir raconter quelque chose de personnel. Tu sais aussi, comme j'aime toujours faire des liens et voir à quel endroit ça résonne en moi, dans mon histoire, qu'est-ce que je vais pouvoir aller revisiter ou régler, comme tu sais aussi que j'ai toujours un aspect très psychologique, moi, et très... introspectif des rôles et de la manière de travailler que j'ai. Donc, s'il n'y a pas ça, j'y vais pas. Donc, est-ce que c'est pas vraiment calculé, c'est réfléchi dans le sens où je pense que il y a des rôles qui sont réellement faits pour certains acteurs et d'autres pour d'autres. Quand je dis non, c'est parce que je suis sûre qu'il y a une actrice pour laquelle
ce sera mieux.
Mon interprétation ne sera pas intéressante sur ce projet-là parce que j'aurai rien de particulier, de profond ou d'intéressant à aller raconter, quoi.
Mais tes rôles ont quand même tous un point en commun, en tout cas une espèce de démarche commune, c'est qu'on a l'impression que tu as besoin, non pas simplement de revenir au centre du personnage et au cœur du personnage, mais tu as besoin de te... J'aime pas le mot parce que ça va être péjoratif, mais de salir, de s'abîmer, de ne pas forcément être dans une espèce de positif. Tes personnages sont assez sombres, souvent.
Mais
ça te va super
et
bien.
Pour sauf un, ont toujours un chemin de libération.
Complètement.
Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de l'ombre, partir de la douleur, partir de ce qui est quand même très courant dans nos sociétés d'aujourd'hui. On souffre beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller raconter... Comment on va vers la lumière, comment on va vers la réparation, comment on va vers la libération intérieure. C'est un sujet qui me passionne et je le dis à chaque interview que je fais, tellement je suis passionnée par ça. Donc bien sûr que pour arriver à cette libération, il faut partir d'un chaos intérieur.
Oui, mais il y a tellement une injonction, notamment pour les belles actrices, à aller vers quelque chose de très lumineux pour ne pas parasiter cette image qu'elles ont, beaucoup on finisse par l'intégrer un peu en se disant... Il faut que je fasse attention, donc je ne vais pas trop me salir, je vais pas trop m'abîmer.
Non, ça toi, c'est vraiment pas une réflexion que je... C'est pas du tout.
Ouais.
Ah, c'est pas... Ça rentre même pas dans le
champ des possibles.
Dans le champ... Ah non, c'est pas du tout une... Ah non.
Et est-ce que ça impacte aussi la Sofia Issaidi chanteuse dans ses volontés de projet, dans sa façon dont tu vas regarder maintenant ce que tu vas faire en tant qu'artiste, musicienne et tout ça? Est-ce que du coup, il y avait un avant et il y a maintenant un après en termes de goûts musicaux pour toi?
Alors... De goûts musicaux, non, parce que finalement, j'ai toujours à peu près su ce que je voulais. Puis ce que j'aime, je l'aimais il y a 15 ans et je l'aime encore aujourd'hui. C'est tout un univers que tu connais, assez jazzy, assez, assez anglo-saxon. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est comment j'aborde tout ça. Et la liberté aujourd'hui que je me suis donnée, la réparation aussi, parce que j'ai eu pas mal de blessures dans mes premières années de chanteuse, parce que je n'arrivais pas à trouver ma place, je n'arrivais pas... à exister comme j'avais envie d'exister. Il y a eu tout ce chemin, j'ai eu besoin de ce chemin, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul dans la musique. Donc c'est plus comment je reviens à ça aujourd'hui. Je reviens, de toute façon, évidemment que je suis différente de celle que j'étais il y a des années, et heureusement. Mais c'est plus manière d'aborder la chanteuse plutôt que le style, parce que le style, il a toujours été là. C'est juste que j'étais tellement perdue, j'arrivais tellement loin... que même moi, là, intérieurement, il a fallu que je me retrouve, il a fallu que je me recentre un petit peu, mais au final...
Mais quel plaisir de devoir revenir aussi à cet univers-là, que je t'ai envoyé un message, mais quand je ne serait-ce qu'aux Enfoirés, et je me dis...
C'est un bonheur, les Enfoirés.
Ça fait bien de te revoir... Ouais. Parce qu'on avait, finalement, y a, pour une génération, ils ont oublié que Sofia Issaidi était aussi chanteuse.
Bien sûr. Ça fait quand même pas mal d'années que je ne fais pratiquement que tourner, bien sûr.
Tu te rends compte, ça fait déjà autant d'années que tu tournes. Et que...
Ça fait presque 25 ans qu'on est là.
Oh là, mon Dieu. Bah oui, pour avoir un fils de 20 ans, je suis d'accord avec vous. Et on va la revoir bientôt, Sofia, dans une autre fiction très attendue dont on reparlera. Mais voici un petit avant-goût. Ça a été présenté là aussi à Cérimania et c'est l'été 36. Et là encore, vous allez voir que Sofia, elle n'a pas encore choisi la facilité dans son rôle. Regardez.
C'est nos premières vacances. Je veux qu'on en profite.
Bienvenue au Riviera.
Oh, Julia, quel plaisir de vous revoir.
Bonjour, Madame Ackerman.
Adrien Jacquard, 45 ans, tué entre minuit et 1h du matin. Personne ne quitte l'hôtel sans mon accord.
Adrien, tu t'en fichais. Tu l'as pris, tu l'as jeté, tu t'es comporté comme une garce.
Un meurtre, c'est d'abord un mobile.
Faut que je récupère le dossier de l'affaire au commissariat. Comme ça, j'aurai de quoi mener ma propre enquête.
Mais quelle enquête?
T'approches plus jamais de ma famille.
Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir.
L'été 36, prochainement sur TF1.
Et Qu'est-ce que c'est bien, moi j'ai adoré, j'ai vu ça, on a vu les deux premiers à Sérimania, et c'est vachement bien, très Agatha Christie, très,
ouais, c'est super.
Très, moi c'est grosse production Agatha Christie, et puis alors, le summum, les Avengers de la Starac, te réunir avec Nolwenn, c'est vrai que c'est génial, mais au-delà de ça, de tous les comédiens formidables qui sont sur cette série, à la fois des gens de télé pure, et des gens de cinéma, je pense à Miu Miu qui est dans un rôle complètement dingue de vieille grand-mère un peu désagréable, mais qui est tellement
qui est
formidable.
Qui est superbe. Ouais.
Par contre, il faut juste qu'on discute. Est-ce que par contrat, tu exiges d'être mariée dans les séries avec tous les beaux gosses de la télévision ?
J'avoue que j'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance à chaque fois.
Alex Michalik qui est là, Simon Elmarcher, je veux dire,
Oui, ça va. Ouais. Ça va.
C'est pas mal. Et là, le rôle est encore une fois un rôle à contre-emploi de ce qu'on aurait pu imaginer, enfin pas de ce qu'on aurait pu imaginer quand on le connaît, mais de ce qu'on aurait pu imaginer en imaginant une grande star de la télévision. Ben non, ben voilà, elle est dans un rôle là aussi de femme en marge qui essaye de remonter vers la lumière, mais qui a tout abandonné pour
mais pareil, tu vois, le support est complètement différent, mais on parle encore une fois d'un chemin vers soi, d'une libération différente. On en parlera sûrement plus longuement une autre fois, mais elle est enfermée, elle, c'est plus inconscient pour le coup, parce que elle a eu l'impression de décider de sa vie, elle a quitté son milieu, mais elle est quand même dans une prison dorée puisque tout va bien pour elle, et comment elle va s'unifier, comment elle va s'accepter complètement pour être enfin libre, quoi. Donc c'est un peu toujours pareil. J'ai un peu... Je te dis pas que ce sera ça toute ma vie. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'autres choses. Mais en tout cas, c'est vrai que ces dernières années, je pense que c'est vraiment très lié à mon chemin. C'est parce que c'est un chemin que moi je fais dans ma vie à moi depuis des années, un chemin de connaissance de soi, de travail, ce qu'on appelle le travail sur soi. Donc peut-être que j'ai besoin d'aller raconter ça à l'écran un peu tout le temps. Et la seule fois où finalement il n'y a pas eu cette, c'était avec Olivier Marchal, Overdose, il n'y a pas de libération, mais c'est aussi un chemin. C'est comment d'un coup on y arrive ou comment on n'y arrive pas.
C'est le truc d'Olivier Marchal. Il y a
mais oui, en général, il n'y a pas de voilà. Mais c'était pareil. Moi, j'étais mue par les mêmes questions existentielles. Comment on arrive à vivre, comment on arrive à se libérer ou comment on n'y arrive pas, quoi. C'est un peu ça que je me pose à chaque fois. En début de projet.
En attendant, Sophia, à chaque fois qu'elle fait une série, c'est l'assurance d'avoir 4 ou 5 millions de téléspectateurs. Et malgré ça, est-ce que c'est compliqué la frontière entre la télévision et le cinéma te concernant ? Est-ce que, voilà, est-ce que t'aimes, ou au théâtre d'ailleurs, est-ce que t'aimerais que cette bascule se fasse de manière plus spontanée ? Parce que t'es capable de tout jouer à la télévision, on le voit bien entre l'été 36 et Intraçable ou même d'autres projets. Et puis, on te voit moins au cinéma ou au théâtre.
Oui, alors le c'est pas
est-ce
pareil.
Que c'est un choix,
pour
ou
moi
c'est
non, c'est pas pareil. Le cinéma, le théâtre, c'est pas la même histoire. Oui, bien sûr que j'aimerais aller plus au cinéma, pas par snobisme, mais c'est parce que c'est vrai qu'au cinéma, il y a peut-être une plus grande liberté. Il y a moins de cadres et que évidemment moi j'ai envie d'aller dans des projets ambitieux, enfin où il y a justement cette grande liberté de pouvoir aller explorer la complexité humaine, et c'est vrai qu'au cinéma il y a plus de, et puis il y a aussi un système un peu différent de temps où, pas pour tous les projets, mais certains, on a plus le temps d'aller explorer, d'aller travailler. Moi je suis une fan de ça, donc c'est vrai que c'est ça qui me donne très envie d'aller au cinéma, et j'ai eu la chance de faire quelques projets merveilleux, des films d'auteurs qui m'ont bouleversé, cette manière complètement différente de travailler, ça m'a bouleversé. Et oui, bien sûr que j'aimerais en faire plus.
Mais
évidemment.
Ça va venir. Elle est encore jeune.
J'espère, mais oui. Et le théâtre, c'est encore autre chose. Le théâtre, c'est un milieu encore différent, et j'ai des propositions, mais c'est pareil, j'irai le jour où vraiment ce sera, puis j'ai un projet comme ça qui est là depuis quelques temps, et j'aimerais vraiment réussir à le monter, mais ou sinon j'attends, je lis, et puis j'attends qu'il y ait ce lien, pareil, je me dis là qu'il y ait une évidence pour y aller, mais pareil, j'ai très 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 envie de faire du théâtre.
Et en fait, quand je vois tout ça, je me dis, il faudrait dire Iris Boucher, donc elle a productrice de l'été 36, et qui avait fait Les Combattantes et le Bazar de la Charité. Je sais qu'on en a discuté. Alors, je lui suggérais l'idée que l'une des prochaines étapes, ce soit non pas dans le passé, mais dans le futur, et d'imaginer ces femmes une société uchronique, genre en Metzel. Mais je me dis, Iris, si tu nous écoutes, t'as Nolwenn. Ta Sophia, t'aurais pas envie de faire une comédie musicale à la télévision, par exemple?
Oh là là, alors ça, ce serait,
mais ce serait génial. Et je sais qu'Iris Boucher, c'est une productrice qui est suffisamment culottée pour pouvoir le faire.
Moi, aller au cinéma aussi, parce que vraiment, j'en parle beaucoup, là, une comédie musicale au cinéma, ce serait extraordinaire. Ça, serait vraiment...
Iris,
je l'attends.
Je vais te faire passer un petit message en attendant. On revient, ça s'appelle Intraçable. C'est à partir d'aujourd'hui sur... Prime Vidéo, avec donc Sophia Issaidi qui court après la vérité et pour retrouver un semblant de liberté, en tout cas, dans cette mini-série de 6 épisodes, d'abord diffusée sur Prime Vidéo et ensuite sur TF1 dans quelques mois, pour notre plus grand plaisir. Et puis entre-temps, vous l'aurez vu, magnifique, dans l'été 36 sur TF1. Ça, on en reparlera, parce qu'alors là, la quintessence de la télévision est réunie dans cette production. Donc vous verrez, ils y sont tous. Vous ne pourrez pas les louper. Merci, Sophia, encore une fois, d'être venue.
Avec plaisir.
Et d'avoir pu échanger ensemble. C'est toujours un véritable plaisir. Je remercie
Partager.
À toutes tes équipes qui t'ont accompagné. Et puis nous, on se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de La Loi des Séries. Je remercie Nicolas, qui était à la réalisation. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.